Ah, cette réunion est enregistrée.
Voilà.
Il faut dire qu'on a compris.
Voilà. Non, non, ça va.
Ah
Oui,
non?
si vous voulez.
Ah, j'ai compris.
On va commencer par réciter tous ensemble notre Père, si ça veut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, soyez tous les bienvenus ce soir. Comme on a commencé plusieurs animations, tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, on essaye de faire, avec l'association ECHO, faire venir un orateur. Et ce soir, c'est Jean-François Froger. Et nous lui avons demandé, comme il est en préparation d'un nouveau livre, hein, et qui est même en participation, on appelle ça
En souscription.
En souscription, voilà. Et ce livre s'appelle Une nouvelle apologie du christianisme, propos pour une logique intégrale. Et donc, j'ai lu ce titre, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même qu'il nous explique un peu en introduction. Donc, on va écouter Jean-François Froger. Jean-François, maintenant, tu as la parole.
Merci. Bon, donc le bouquin s'appelait au début, papier, ah, si on peut montrer comme ça,
Oui.
Vers une nouvelle apologie du christianisme et avec une citation de Jésus, Moi je suis la lumière du monde, propos pour une logique intégrale. Voilà. Mais alors le titre était trop long pour l'éditeur. Voilà. Donc ça s'est raccourci parce que l'idée d'aller vers. Et c'est important parce qu'une nouvelle apologie, c'est comme si elle était entièrement faite. Et alors qu'en fait, elle est en projet. Elle est pratiquement réalisée, mais c'est quand même un projet. Je voudrais vous lire au début ce que j'ai mis en entrée du bouquin, d'ailleurs, en exergue. C'est un passage de Benoît XVI que j'ai trouvé qui était très beau. Et donc, il dit que le mal ne vient pas de la source de l'être lui-même. Il n'est pas également originel. Le mal vient d'une liberté créée, d'une liberté dont on a abusé. Comment cela a-t-il été possible? Comment est-ce arrivé? Cela demeure obscur. Et alors là, j'ai souligné, enfin, vous verrez dans le bouquin, le mal n'est pas logique. Seul Dieu et le bien sont logiques, sont lumière. Le mal demeure mystérieux. Nous pouvons deviner, pas expliquer. Nous ne pouvons pas même le raconter comme un fait détaché d'un autre, parce qu'il s'agit d'une réalité plus profonde. Cela demeure un mystère d'obscurité, de nuit. Voilà. Alors, c'est un peu plus long, mais j'abrège. Et ce qui est important, c'est ce soulignement de la part du pape, de l'ex-pape Benoît XVI, qu'il n'y a pas de logique dans le mal. Le mal n'est pas logique. C'est la première fois que je lis ça. C'est une évidence, mais enfin, ça valait la peine d'être dit. Et que seul le bien et Dieu sont logiques. Donc, c'est pour ouvrir l'esprit et le cœur, d'ailleurs, à une pensée qui est plutôt rare, à savoir que la logique est importante. Voilà. Parce qu'en général, on considère que c'est une formation pour les mathématiciens, par exemple, ou dans les études classiques, on faisait un petit peu de logique aristotélicienne. Il se trouve que toute la pensée de l'Église, depuis saint Thomas d'Aquin, est liée à une logique, au moins dans le catholicisme. C'est la logique d'Aristote qui a été introduite par saint Thomas d'Aquin. Et pourquoi il a fait ça? Ça, c'est intéressant de se poser le problème. Parce que la logique d'Aristote, à l'époque déjà, jusqu'à aujourd'hui ou presque, était la seule logique disponible. Et aujourd'hui, la plupart des gens imaginent qu'il n'y a qu'une seule logique, c'est la logique aristotélicienne. Bonjour à Olga et André.
Ah, chic.
Je suis vraiment très, très heureux de vous voir.
Oui.
Voilà. C'est ça, quand on voit tout le monde sur l'écran. Donc, avoir l'idée que la logique gouverne non seulement les raisonnements, mais tout le langage. Et donc, si, par bonheur, on trouve une logique plus puissante que la logique aristotélicienne, qui est développée jusque dans les mathématiques contemporaines, on aura le bonheur de pouvoir penser des choses qu'on ne pouvait pas penser avant. Pourquoi ? Parce que la logique impose une contrainte à la pensée, une contrainte justifiée pour que les discours raisonnables, selon la raison, puissent être transmissibles à d'autres. Donc, quand il nous faut une langue commune pour parler, et ça suppose beaucoup de problèmes quand on parle plus des langues étrangères, mais ce n'est pas simplement un problème de langue, il y a la structuration de notre pensée qui est la plupart du temps inconsciente parce qu'elle est unique et jamais remise en question. Alors, le bouquin, je présente, il remet en question l'impérium de la logique aristotélicienne. Alors, il y a eu des essais. Les physiciens ont eu déjà un problème de ce type parce que, évidemment, la logique binaire, comme on l'appelle, n'est pas suffisante. Ça, tout le monde le sait. Et donc, enfin, dans le monde physicien. Et tout le monde essaye, en tâtonnant, de trouver autre chose. Alors, la grande nouveauté que je propose, j'allais dire que nous proposons, mais mon co-penseur de la chose, si on peut dire, est malheureusement décédé. C'est Robert Lutz, qui était mathématicien tout à fait professionnel, chercheur en mathématiques même, et avec qui j'ai travaillé une quinzaine d'années. Donc, je voudrais lui rendre hommage ce soir, parce que la plupart de la technique logique que j'emploie dans le bouquin, ça s'est fait avec lui. C'est vraiment un travail dans un dialogue. Et parce que tout seul, on aurait, ce qu'on se disait souvent, en riant d'ailleurs, c'est que l'un sans l'autre, on n'aurait pas avancé. Pourquoi ? C'est un peu difficile, parce que ce qui nous empêche de penser, en général, ce sont les évidences. Et donc, nous avons eu à lutter contre les évidences que notre culture nous donnait. On partageait la même culture, les mêmes mathématiques d'ailleurs, hein, mais lui, c'est un grand maître en mathématiques. Donc, grâce à lui, nous avons pu formaliser des idées qui venaient au miracle, qui venaient de l'Écriture sainte. Alors ça, c'est une chose qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre, évidemment. C'est qu'il y a des structures logiques dans l'Écriture sainte. Et c'est ça la clé à comprendre pour dire qu'il y a une nouvelle apologie possible. C'est-à-dire qu'on peut montrer que l'Écriture sainte n'est pas mythique. Contrairement à tout ce qu'on croit, parce qu'il y a des images qui sont de l'ordre de la mythologie. Mais ce n'est pas parce qu'on emploie des images de type mythologique qu'on a un langage mythologique. Tout dépend de la logique qu'on a. Alors, ça pose de très gros problèmes d'exégèse et ça fait faire attention aux traductions. Alors, je vous raconte un peu l'histoire, l'origine, je ne sais pas si le temps passe vite, après je parlerai du bouquin lui-même, mais d'où viennent toutes ces idées, hein, parce que souvent on me pose la question, alors je devance les questions. D'où viennent toutes ces idées ? Viennent de la méditation sur le récit de la fabrication de la femme. Parce que vous savez que dans la Bible, la femme n'est pas créée, elle est fabriquée, elle est construite. Hein, c'est le verbe bana en hébreu. L'homme, Adam, est créé, il est façonné à partir de la poussière de la terre. Hein, Yatsar Elohim, et afar mina adama en hébreu. Donc il est façonné. Donc on va voir qu'il est important de dire, pas simplement de dire que l'homme est créé, comme tout l'univers, mais qu'il est un travail de Dieu. On ne peut pas le dire des étoiles, ni même des haricots verts, je ne sais pas quoi. Tout est créé, mais l'homme est très spécial parce que le récit nous dit qu'il est resserré, il y a de ça. Il est resserré à partir de la poussière. Donc c'est un travail, parce que quand on transforme une matière préexistante et qu'on y ajoute un acte et qu'on obtient une deuxième chose, donc il y a une transformation, ça s'appelle un travail. Et donc il se trouve que la Genèse nous montre la création de l'homme comme un travail de Dieu. Il a à la fois créé et travaillé. Alors c'est très important parce que ce travail, on va le voir, est à compléter par l'homme lui-même. L'homme doit collaborer à sa propre nature. Et ça, on le voit dans toute l'Écriture. Pourquoi ? Parce qu'il est créé avec une possibilité tout à fait nouvelle, qui est la possibilité de la liberté. Il n'y a de liberté que chez les hommes et chez les anges, mais ça, c'est un autre domaine. Voilà. Les pierres ne sont pas libres, les chiens non plus. Voilà. Et donc, je méditais sur ce qu'on appelle habituellement la création de la femme, où, vous savez, il y a le sommeil profond qui est envoyé sur Adam, un sommeil qu'on appelle spécialement Tardema. Et Dieu dit, l'Écriture, prend un côté de l'homme, de Adam exactement, parce que, et en façonne, construit, Yiven, la femme. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut croire à des choses pareilles? C'est des images pour les enfants, on a cru ça, c'est de la mythologie, bon, ça ressemble à d'autres mythologies et tout. Et mon idée, c'était, non, ce n'est pas possible que ça soit de la mythologie si c'est vraiment révélé, si Dieu existe et qu'il révèle des choses. Comme dit saint Thomas d'Aquin, la première chose qu'on puisse dire de Dieu, c'est qu'il est l'intelligence. C'est bien qu'on dit autrement ailleurs, mais c'est ce qu'il dit. Il n'est pas simplement intelligent, comme il est ses propres attributs, il est l'intelligence. Comment l'intelligence peut fabriquer des récits pareils, les inspirer à des hommes? Alors ça a été mon problème il y a 40 ans. Donc après, il y a 40 ans de travail et de réflexion. Mais au début, donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut prendre le récit à la lettre, comme tous les récits bibliques, pour les comprendre. Et ensuite, passer peut-être à un autre niveau d'interprétation, évidemment. Parce que c'est intelligent. Mais il faut intelliger ce qui est dit, non pas ce qu'on imagine. Alors, qu'est-ce qui est dit? C'est qu'on prend un côté de l'homme. Et ensuite, c'est présenté face à l'homme, fait venir devant l'homme, et l'homme dit, Adam dit, cette fois-ci, parce qu'il a nommé les animaux avant, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et c'est là où on peut y voir l'intelligence. Alors, comment? Ben, c'est très simple. En prenant à la lettre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, l'os de mes os? C'est pas un des os parmi tous les os, parce que c'est une femme complète. La chair de ma chair, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où je me suis dit, ben, il faut regarder ce que c'est que la chair et les os, d'abord. Puisqu'on nous donne cette image, regardons ce qu'elle signifie. La chair, c'est quoi? Ben ça, en hébreu, c'est ce qui se montre à autrui. La chair, alors nous, on habille, parce que c'est pas bien d'être tout nu, mais la chair, c'est ce qu'on présente. Nous, on présente la chair de notre face, la chair de nos mains. Et puis, quand on est sur la plage, on en présente un peu plus. C'est ça, la chair, c'est ce qu'on voit de l'autre, et à l'occasion de soi-même. Mais les os, c'est ce qu'on ne voit pas. Quand on commence à les voir, ça veut dire qu'il y a eu un accident grave. Or, c'est un principe très important à avoir, c'est qu'on ne peut pas interpréter une chose quand ça va mal. Je donne un exemple. Comprendre comment marche le moteur d'une voiture quand elle s'est écrasée contre un mur à 100 à l'heure, c'est de la bouillie. Enfin, vous n'allez pas comprendre comment marche une voiture avec l'accident. C'est pas possible. Et vous n'allez pas comprendre ce que c'est que la bonne santé en regardant des malades. C'est pour ça que les médecins, souvent, ne savent pas trop ce que c'est que l'homme parce qu'ils ne voient que des malades. Et il faudrait voir aussi des gens bien portants. Donc, il faut prendre les choses quand elles sont en ordre, bien faites, en bonne santé ou dans leur bon état. Autrement dit, dans le bien. Il n'y a pas de logique dans le mal. Donc, ce n'est pas les accidents qu'il faut regarder. C'est quand ça va bien. Et c'est là où on peut comprendre. Alors après, on peut comprendre aussi pourquoi ça va mal. Pourquoi il y a du mal qui s'y installe. Mais d'abord, comment ça va bien? Quand ça va bien, les os, c'est invisible. Et donc, on nous parle de choses visibles et de choses invisibles. Alors, c'est un gros progrès de la pensée, ça. C'est que, effectivement, il y a des choses invisibles. Le monde, il y a un tas de choses visibles. On accroît nos instruments pour en voir de plus en plus. Vous voyez, on regarde le ciel, il y a des petits points brillants. On construit des télescopes, on en voit encore plus, etc. Bon, mais c'est toujours la même chose entre nous. Bon. Et on ne voit jamais l'invisible, par définition. Parce qu'il y a des choses cachées. Alors là, on peut dévoiler, mais elles ne sont pas invisibles. Elles ne sont pas visibles occasionnellement. Ça, c'est les choses cachées. Et les choses cachées, on peut les dévoiler. Mais il y a des choses invisibles. L'os, c'est une chose invisible quand on prend l'homme vivant. Et c'est l'homme vivant qu'il faut regarder, parce que c'est là la source de toute connaissance et inspiration qui existe dans le monde. Qui c'est qui connaît quoi que ce soit, ici-bas, c'est l'homme. Et qui s'il fait des erreurs, c'est nous aussi. Voilà. Et donc, l'os est invisible. Mais alors après, pourquoi dire « os de mes os et chair de ma chair » ? Parce que c'est issu de moi ? Non. Alors, c'est là où la structure quaternaire se met en place. Pourquoi ? Parce que l'os des os, ça veut dire « il y a de l'os » plus os que l'os, os de mes os. Parce que pour dire, c'est comme mes os, elles partagent la même nature. Et chair de ma chair, il y a quelque chose de plus que je ne vois pas, justement. Et j'ai besoin d'une révélation. Alors, la femme, là, qui est créée, qui est fabriquée, est mise devant l'homme pour qu'il voit ce qu'il ne pouvait pas voir. Et donc, c'est la figure de la révélation. La révélation, c'est de nous dire des choses qu'on ne pouvait pas connaître par la simple raison. Et donc, il faut autre chose. Donc, il y a deux sources de la connaissance. Ça va être l'observation et les théories qu'on va construire à partir de l'expérience. Ça, c'est la mentalité d'Aristote et de à peu près tous les scientifiques. Alors, ça marche localement, ça marche un petit peu. Dans la vie courante, ça suffit. Mais si on veut penser jusqu'au bout, ça ne marche pas. Parce que, comme disait Albert Einstein, que j'aime beaucoup, il disait, la théorie, il n'y a pas de chemin de l'expérience à la théorie. Tout le monde croit le contraire. Moi, je dis, c'est ce que Einstein a dit de plus génial, parce que les équations, pas tout le monde les a trouvées, bien sûr, ni tout le monde ne les comprend, mais c'est des équations. Mais avoir eu cette pensée, qu'en fait, on ne peut pas se fier à l'expérience pour atteindre la théorie, une bonne théorie, ça, c'est totalement génial. Et ça va contre un préjugé quasiment universel, en tout cas dans toutes les sciences, parce qu'on commence par faire des expériences et puis on essaye de formaliser, théoriser les expériences. Eh bien, pour la vie quotidienne, ça marche. Encore que, parce que moi, tous les jours, quand je sors de chez moi, je vois le soleil. Et mon expérience quotidienne absolument indubitable, c'est que le soleil se lève et que le soir, il se couche. Et si je fais la théorie du lever et du coucher du soleil, eh bien, je ne tombe pas sur, du tout sur la théorie de la Terre qui tourne autour du Soleil ou qui tourne sur elle-même. Ça, ça vient d'ailleurs. C'est certainement plus juste, je suis d'accord, mais ce n'est pas mon expérience. Donc, il n'y a pas de chemin de l'expérience à la théorie. Et c'était très, très simple. Et dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Alors, d'où vient la théorie? Alors, en général, d'une expérience projetée dans la théorie. Et c'est toujours mauvais. C'est le statut de la science habituel. Pourquoi? Et c'est pourquoi on en change constamment. Enfin, de siècle en siècle, on fait quand même quelques progrès. On dit, on a fait l'expérience, on a fait la théorie, on a fait l'astronomie de Ptolémée, ça a marché pendant des siècles et des siècles quand même. Parce qu'en gros, le soleil se lève et il se couche. Quoi. Hein? Mais si on veut calculer, il vaut mieux avoir une autre théorie. Bon. Et donc, en général, c'est les défaillances de l'expérience qui font faire un progrès vers une théorie nouvelle. D'ailleurs, Einstein a fait ça. Hein. C'est les défaillances de l'expérience sur la trajectoire de Mercure autour du Soleil. Alors là, il y avait une petite défaillance par rapport à la théorie newtonienne. Donc, il a fait une nouvelle théorie qu'on connaît comme la relativité restreinte. Bon, très bien. Donc, il a fait ce qu'il dit qu'il ne faut pas faire.
Je peux l'essayer ?
Bien sûr, je vous en prie.
Ah. Bon, donc, est-ce que la Bible nous présente quelque chose qui vient de l'expérience? Eh bien non, parce que tout ce qu'on nous raconte dans l'Écriture sainte, en gros, ça ne relève pas de l'expérience. Par exemple, que le monde soit créé, eh bien, vous pouvez regarder des montagnes ou la mer ou n'importe quoi d'autre pendant une éternité, vous ne verrez jamais que c'est créé. C'est une théorie qui ne vient pas de l'expérience. Et d'ailleurs, Aristote, dans sa philosophie, dit qu'on ne peut pas trancher sur l'éternité du monde. Et saint Thomas d'Aquin, qui suit Aristote, dit qu'on ne peut pas trancher. Mais comme la Genèse nous dit que le monde a commencé, alors on va dire qu'elle a commencé. Mais ce n'est pas rationnel, du point de vue de l'expérience. Et précisément, c'est une chose révélée. Et l'idée de création n'existe nulle part ailleurs que dans Moïse, enfin dans la Torah. Parce que souvent les Occidentaux, ils parlent des récits de création, je ne sais pas en Inde ou ailleurs, mais ce n'est pas du tout des récits de création, c'est des récits d'origine. Mais comme nous, en Europe, en tout cas, on était imprégnés du christianisme et de la terminologie chrétienne, donc, on parle de la création, pour dire à peu près n'importe quoi d'ailleurs. Et du coup, quand on a lu, par exemple, les récits mésopotamiens ou égyptiens ou indiens sur les origines du monde, ou les mythes grecs, on a toujours affaire à de la mythologie. Eh bien, vous regardez, il n'y a jamais l'idée de création. Il y a toujours quelque chose d'antérieur, il y a toujours un no man's land, un brouillard indéfini, de l'indifférencié à l'origine, et alors les dieux y mettent de l'ordre là-dedans. Et quand on lit la Genèse de façon un peu distraite, on a l'impression que c'est la même chose. Mais une impression seulement, parce que quand on lit exactement le texte, ce n'est pas du tout ça qui est dit. Et c'est dit comme un principe, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, v'et Haaretz, au commencement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce commencement? Voilà. Et ça nous vaut des difficultés considérables dans la pensée et dans les efforts pour faire coïncider nos connaissances physiques avec la révélation. Eh bien, dès qu'on fait ça, on se trompe. Alors, on a l'exemple du 19e siècle, qui a voulu faire coller, entre guillemets, les théories géologiques naissantes avec les six jours. Les six jours, tout le monde dit, ben c'est rigolo, les six jours, ce n'est pas possible, ça c'est de la mythologie. Bon, c'est pour justifier la semaine et le Shabbat. Bon, ça c'est des idées d'exégète, mais ce n'est pas la réalité. Qu'est-ce que c'est que ces six jours? Alors, quand on essaye de faire coller avec les connaissances de l'actualité, on essaye de faire coller ça avec les époques géologiques. on a vu que ça faisait, c'est une erreur, quoi. Au début, on a essayé d'y croire, ça s'appelle le concordisme. Eh bien, aujourd'hui, il y a un nouveau concordisme qui vient de paraître, 150 000 exemplaires. Hein, voyez le bouquin dont je parle. Et c'est une erreur profonde, mais qui remplit d'aise tous les gens. Parce que le raisonnement, c'est le monde a eu un commencement à cause du Big Bang, il aura une fin à cause du froid universel, l'expansion des gaz. Bon, c'est à mourir de rire. On a une certaine expérience du monde, on fait un certain modèle, mais qui est déjà dépassé. L'affaire du Big Bang est déjà contestée. Ça ne marche pas, cette affaire. Eh bien, s'appuyer sur des choses pareilles pour comprendre la création, c'est stupide. Et quand même, l'abbé Lemaître, qui avait pensé l'atome primitif, et devant l'enthousiasme même de Pie XII, avait dit du calme, ça n'a rien à voir avec la création. Il était intelligent, cet homme-là. Hein? Il avait prévenu qu'il ne faut pas confondre. Eh bien, aujourd'hui, il ne faut pas confondre le Big Bang avec la création du monde. C'est une sottise. Alors, des arguments, il y en a. Hein? Des équations aussi. Alors, pour ça, pourquoi ? Pour dire qu'on ne peut pas comprendre le texte comme le résumé un peu facile, un peu enfantin de ce que les hommes croyaient, de leur expérience et ça. Je vais vous dire, aucun homme n'a jamais fait aucune expérience sur la création. C'est la chose la plus inintelligible possible. Donc c'est vraiment, c'est une révélation extraordinaire. Seulement, quand on a reçu la révélation de la création, le monde est créé. Après, on a le droit, et même le devoir, me semble-t-il, de se poser la question, mais enfin, qu'est-ce que ça nous enseigne ? Pourquoi nous révéler une chose pareille ? Hein ? Alors c'est ça. Comment on a la théorie ? Descendons vers l'expérience. Qu'est-ce que ça éclaire sur le monde que nous connaissons ? C'est une révélation, c'est fait pour nous instruire et nous aider à comprendre mieux le monde dans lequel nous sommes et nous-mêmes avec. Et donc, la création, qui est une vérité révélée, doit pouvoir illuminer notre intelligence. Alors, quelles sont les conditions pour penser la création ? Eh bien, c'est assez simple, mais c'est nouveau. Donc, c'est un peu difficile à comprendre parce que nous avons tous les préjugés qui s'y opposent. D'où ma longue introduction. Il faut lutter contre ses propres préjugés et construire un discours qui soit intelligible. Alors, je fais un nouveau chapitre dans la présentation, mais je traite de tout ça dans le bouquin. Qu'est-ce que c'est que de donner une parole intelligible ? Comment on comprend quelque chose ? Alors, le langage à lui tout seul n'est pas forcément intelligible. Et d'ailleurs, on a du mal à se comprendre les uns les autres, surtout quand on parle à partir de ce qu'on ressent. L'expérience, il n'y a pas de chemin vers la théorie. Et donc, c'est intransmissible. Parce que ce qui est vraiment transmissible, c'est ce qui est intelligible, précisément. Les sentiments sont incommunicables. On voit à peu près quelqu'un en colère, on voit qu'il est en colère. Quelqu'un qui est gentil, on voit qu'il est gentil. Mais ça ne va pas très loin, quand même. Pour comprendre le monde, pour comprendre la création, pour comprendre l'homme. Alors, une parole intelligible, ça suppose l'usage de la raison. Et j'ai cité dans le bouquin un passage de... C'est juste à la fin de... Je cherche une feuille. Voilà. C'est un dogme de Vatican I, pas Vatican II. Hein. Vatican I est beaucoup plus rigoureux, c'est très court, il y a 3-4 pages à comprendre. Et il le dit, l'Église a toujours tenu, et tient encore, qu'il existe deux ordres de connaissances, distinctes non seulement par leur principe, mais aussi par leur objet. par leur principe, puisque dans l'un, c'est par la raison naturelle, et dans l'autre, par la foi divine que nous connaissons. Ben, je dis, par exemple, que la création, c'est par la foi divine. Ce n'est pas du tout par la raison naturelle. Par leur objet, parce que, outre les vérités que la raison naturelle peut atteindre, donc l'expérience habituelle, nous sont proposés à croire des mystères cachés en Dieu. Par exemple, le mystère de la Sainte Trinité. Personne ne peut inventer une chose pareille. Alors après, il s'agit de comprendre. À croire des mystères cachés en Dieu qui ne peuvent être connus s'ils ne sont divinement révélés. Et un peu plus loin, ils expliquent, lorsque la raison, éclairée par la foi, cherche avec soin, piété et modération, elle arrive, par le don de Dieu, à une certaine intelligence très fructueuse des mystères. Donc, les mystères sont proposés à notre raison. Soit grâce à l'analogie avec les choses qu'elle connaît naturellement, on va voir que l'analogie est une chose importante, soit grâce au lien qui relie les mystères entre eux et avec la fin dernière de l'homme. Jamais, toutefois, elle n'est rendue capable de les pénétrer de la même manière que les vérités qui constituent leur objet propre. Non seulement la foi et la raison ne peuvent jamais être en désaccord, mais encore elles cèdent mutuellement. La droite raison démontre les fondements de la foi. Voilà pourquoi nous pouvons faire une apologie. L'apologie, c'est la démonstration des fondements de la foi, qui peut être donnée à tout un chacun, ensuite libre aux uns et aux autres d'y adhérer par l'intelligence. Et c'est ce qu'on appelle les éléments de crédibilité de la révélation, quand on fait de la théologie. Donc la droite raison démontre les fondements de la foi et, éclairée par la lumière de celle-ci, elle s'adonne à la science des choses divines. Et moi j'ajoute à la science tout court aussi, on va voir. Quant à la foi, elle libère et protège la raison des erreurs et lui fournit de multiples connaissances. Eh bien, moi je dis que tout notre travail est de bien définir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de raison, de droite raison, de connaissance par la foi. Donc ça, c'est à la fin du bouquin, c'est la conclusion. Alors, l'apologie du christianisme, c'est, d'ailleurs, je viens de recevoir la préface qui est faite par notre bon père Francisco José Sáez d'Espagne, qui travaille à l'Université Comillas de Madrid, et qui a bien voulu faire une préface pour ce bouquin. Alors, il l'a lu et relu plusieurs fois, il a bien décrit, alors je ne peux pas vous lire toute cette préface, parce que c'est un peu long, mais c'est magnifique, donc je le remercie, on ne sait jamais s'il écoute maintenant. Et il dit, le rationalisme est déjà vaincu, tout comme le fidéisme. Parce que le fidéisme, c'est de croire sans s'occuper de la raison. Et bien, c'est une erreur grave, et qui empêche les autres de croire. Parce qu'il dit, vous croyez ce que vous voulez, mais c'est arbitraire, c'est personnel. Vous avez choisi de croire, bon d'accord. Alors, s'il y a un acte de liberté dans la foi, oui, mais elle est fondée sur quelque chose de rationnel. Alors, l'apport de la logique est mettre de l'ordre dans le discours, c'est ce qu'a fait saint Thomas d'Aquin. Mais la logique aristotélicienne étant si étroite que ça ne colle pas vraiment avec la révélation. Et donc, il est constamment en train de jouer avec ça. C'est très difficile. Et il a, par exemple, sa preuve de l'existence de Dieu par le premier moteur, qui est une preuve concordiste, qui ne marche pas, surtout quand tout se meut naturellement et par soi, parce qu'en physique, on voit ça. Il n'y a pas besoin de donner une pichenette pour que ça bouge, tout bouge. Donc, sa démonstration, par exemple, est complètement fausse. D'ailleurs, elle n'a jamais convaincu personne. Mais il y en a d'autres, des démonstrations. C'est l'intelligence de ce que c'est que la création. On se dit, mais tiens, ça correspond à de la logique. Alors, comment on y va? Eh bien, doucement, en regardant. Moi, j'ai commencé par la création de la femme parce que ça me paraissait tellement étrange, tellement incompréhensible. Et à la fois, je me dis, il y a quelque chose à comprendre. Eh bien, j'ai fini par comprendre quelque chose. Et effectivement, ça donne la structure quaternaire de la vie. Et du coup, alors, une structure quaternaire, il faut que j'explique, parce qu'il y a beaucoup de contresens qui déjà naissent. On a à peine dit une chose, qu'elle est mécomprise et qu'on en raconte des bêtises avec. C'est inévitable. Une structure quaternaire, si on écoute bien, il y a bien quatre choses, mais il y a une structure. Et cette structure, elle est liée à une logique. Alors donc, il faut faire l'effort de construire et de comprendre cette logique, et ensuite de l'appliquer. Et on voit bien au résultat, comme toujours, si c'est juste ou si ce n'est pas juste. Parce que les preuves, elles sont possibles, parce que si vous savez faire cuire un œuf, votre œuf est cuit. Si vous ne savez pas le faire cuire, il n'est pas cuit. Vous avez quand même des preuves par les faits. Et si vous comprenez, par exemple, le lien que plusieurs choses révélées ont entre elles, alors que dans le récit, il n'y a aucun lien. Par exemple, l'incarnation du Verbe dans la Vierge Marie, c'est une chose révélée. Et le fait que dans l'Eucharistie, ça soit Jésus lui-même en chair, et pas en os, mais en chair et en sang, qui soit donné. Quel est le rapport entre ces deux mystères? Eh bien, a priori, on ne peut pas en donner. Par la logique, oui. Il y a un lien logique entre ces deux mystères, et d'autres d'ailleurs. Alors, l'émerveillement vient à ce moment-là, c'est que ce qu'on nous dit sous un certain mode imagé, qu'on croit un peu aveuglément, parce qu'on a le don de la foi, mais c'est une foi infirme, et une foi qui a du mal à se propager d'ailleurs, sauf quand on la transforme en idéologie. Les idéologies, ça se propage assez bien. Hein? Ça peut envahir le monde, comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein? Comme avant, il y a eu des idéologies comme le marxisme hein, qui se sont répandues dans presque tous les pays, pour y croire ou pour en lutter, mais ça s'est répandu. Comment ça se fait? Eh bien, notre foi devrait se répandre avec la même facilité. Sauf que ça porte sur les mystères de Dieu et de l'homme, indissociablement. Alors, ce que j'ai fait dans ce bouquin, alors je ne peux pas résumer là en une conférence d'une heure, il n'y a que 200 pages, c'est assez court. Mais c'est un peu long à lire parce qu'il faut faire attention à chaque ligne, à chaque paragraphe. Et c'est de type mathématique. Mais il y a beaucoup d'exemples, justement. Par exemple, je montre que la révélation qui est donnée à Jacob, vous savez, j'en ai traité d'ailleurs chez Echo, il y a 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, à une réunion où j'ai fait connaissance avec André. Il était là. Quand on a ce récit tout à fait étonnant de Jacob qui s'en va là pour épouser une fille un peu au loin, il arrive, il est saisi par la nuit et il choisit une pierre pour se coucher. Dès qu'on a un récit comme ça, on se dit stop, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les Bédouins ou n'importe qui voyage dans le désert, ils emportent leur tente, ils emportent de quoi? Ils ont quoi se coucher? Ils n'ont pas besoin des pierres du chemin. Ça paraît absurde même. Pourquoi on nous raconte une chose pareille? Donc, il prend une pierre pour dormir. Pendant son sommeil, il voit comme une échelle qui va jusqu'aux cieux, avec les anges qui montent et qui descendent, parce que les anges montent à partir. Souvent, on transforme le texte hein, pour le fait que les anges descendent et puis qu'ils remontent, parce que les anges sont au ciel. Ça, c'est ne pas lire le texte. Mais quelquefois, c'est très grossier, vous savez, les erreurs que nous faisons. Il faut lire, les anges, ils montent et ils descendent. Ah bon? Donc, ça veut dire quelque chose. Alors, il dort, il voit ça, et puis au-dessus de l'échelle, il y a la présence divine. Ça. Et il entend une promesse. Le terrain sur lequel tu dors, là, je te le donnerai à toi et à ta descendance. Ah bon ? C'est un rêve. C'est un rêve. Et après, il se réveille. Et il fait une chose tout à fait étonnante, parce que la pierre sur laquelle il a dormi, il la dresse, il la met debout. Donc la pierre ne devait pas avoir n'importe quelle forme. C'est ça, apprendre à lire entre nous. Il dresse la pierre. Mais il faut se poser la question, comment c'est possible déjà ? Il faut prendre à la lettre, là. Parce que vous ne pouvez pas dresser une pierre qui est ronde. Ça n'a pas de sens. Il faut une pierre oblongue, un peu... Et puis, tu ne peux pas dormir dessus. Moi, j'ai essayé de dormir sur un caillou rond. Ben, c'est impossible parce que ça roule. Vous ne pouvez pas vous endormir sur n'importe quelle pierre. Et donc, comme il y a un replat, tout le reste est rond hein, sur la tête. Mais là, il y a quelque chose d'à peu près plat. Donc, vous pouvez poser sur quelque chose qui est à peu près plat. Parce que si c'est rond, ben, vous n'avez pas de chance de vous endormir. Hein. Parce que dès que vous perdez conscience, ça roule. Et les lois de la physique sont là. Bon. Et donc, il s'endort. Il a cette vision. Alors, il prend cette pierre, il la dresse en stèle, donc pour faire un mémorial, et il l'oint avec de l'huile. Donc, il avait de l'huile dans ses sacoches. Hein. Donc, et il en fait un mémorial. Et il dit, si tu me gardes en voyage, il parle à Dieu. Si tu me gardes en voyage, que je reviens chez mon père, si tu me donnes le pain à manger, le vêtement à vêtir, alors tu seras mon Dieu. Et c'est un récit dans lequel on voit, c'est la révélation là, qu'il faut choisir son Dieu. Alors Dieu fait tout pour qu'on le choisisse, hein, il nous révèle des belles choses quand même. Hein. Mais c'est Jacob qui doit dire, tu seras mon Dieu. Mais il pose des conditions. C'est quand même très étonnant tout ça. Alors, je ne redéveloppe pas parce qu'il faut des heures pour bien lire ces textes-là. Et après, justement, il faut que nous nous souvenions de ces choses. C'est pour ça qu'il fait une stèle hein, à Bethel, qui s'appelait Luz dans le temps. Bon. Alors, ces textes-là sont d'une richesse étonnante. Eh bien, vous voyez, par exemple, il y a trois états de la pierre. Quatre même. Il y a la pierre qui se trouvait... au bord du chemin, qu'on n'avait même pas remarqué, il y a des pierres partout, de toute façon, hein, c'est un état premier. Il y a le fait que Jacob va faire attention pour en choisir une pour dormir. Il faut expliquer pourquoi, bien sûr. Tout ça doit être compris, sinon le texte ne sert à rien. Donc il en choisit une, correcte, évidemment, pour pouvoir dormir, parce qu'il est déjà inspiré. Il dort dessus, il adresse et il loin. Donc, il y a quatre états de la pierre. Alors, est-ce que ces quatre états sont corrélés par une relation logique ? Alors, c'est ça la démonstration. Alors là, je ne peux pas la donner maintenant, puis il faudrait écrire au tableau un tas de choses. Hein. C'est fait sur du papier. Mais ça vaut la peine de faire l'effort. Parce que les quatre états de la pierre, il y a... Donc, ça va permettre de construire et d'appliquer une structure logique quaternaire. La structure, ce n'est pas parce qu'il y a quatre choses que ça fait une structure, mais c'est parce qu'il y a de la structure qu'on va pouvoir comprendre les relations. Alors, à ce moment-là, on voit que c'est aussi la révélation de quatre états de la connaissance dans Jacob. Et quand on a pratiqué un peu le symbolisme des objets, non pas dans les dictionnaires, mais pratiquement, il faut de la méthode, à ce moment-là, on sait que la pierre symbolise la vérité. Donc la vérité a quatre états. Et évidemment, la scène nous montre le passage d'une espèce d'inconscience. Les hommes naissent inconscients, on ne sait rien, on est ignorant, on est inconscient, et en plus dans une société pécheresse. Donc, on a du mal à émerger de tout ça quand même. Hein. Bon. Mais, il y a la révélation, et qui va nous, si on essaye de la comprendre, va nous sortir et va nous faire comprendre les relations intimes et les structures de la vérité. Vous n'entendez jamais parler de ça nulle part, sauf dans l'Écriture sainte. Parce que c'est de la révélation. Donc, ça va aider la raison. Et vous allez voir qu'il y a quatre états de la connaissance, parce que la vérité est faite pour être connue. Et il y a des états de connaissance, eh bien, qui sont très difficiles ou pratiquement inaccessibles. C'est justement, par exemple, la pierre qui existe là, mais qui ne prend de l'intérêt que lorsque un homme arrive et la choisit pour dormir. Avant, elle est là, donc il y a de la vérité qui est là et qui ne sert strictement à rien, sauf qu'il faut qu'elle soit là pour pouvoir être choisie un jour. Vous voyez qu'on entre dans des phénomènes qui sont logiques, qui sont de la révélation et qui sont aussi moteurs de la vie spirituelle. C'est-à-dire que lorsqu'on est pris par ça, on adhère avec toute son intelligence dans tout ce qui est intelligible de la révélation qui nous déborde, ça c'est certain. Mais ce n'est pas parce que l'océan nous déborde qu'on ne construit pas des bateaux pour aller sur l'océan. Eh bien, la même chose, ce n'est pas parce que la révélation nous déborde qu'il ne faut pas construire des structures logiques pour naviguer à l'aise dans la révélation et en recevoir tous les bénéfices. Les bénéfices, c'est la foi, parce qu'on s'ouvre à la révélation qui vient de Dieu. Je rappelle la définition classique de la foi. La foi, c'est l'assentiment de l'intelligence à la vérité révélée. C'est très important. Assentiment, c'est-à-dire qu'il y a un acte de volonté quand même, qu'on ne peut pas faire n'importe comment, il faut dire oui. Donc il y a un acte de liberté, mais à quoi ? Assentiment de l'intelligence qui comprend quelque chose quand même, à la vérité révélée. Donc il faut avoir un petit contact avec la vérité qui ne soit pas notre définition habituelle de la vérité qui est désastreuse. La vérité, ben, c'est le contraire du mensonge ou le contraire de l'erreur. On définit une chose par son contraire, ça c'est souvent. Mais c'est désastreux, parce que du coup, on applique une logique binaire, hein, c'est vrai, c'est faux, mais comme il n'y a pas de logique dans le mal, on abîme la logique qu'il y a dans le bien. Ça, merci Benoît XVI d'avoir dit ça. Hein. Il n'y a pas de logique dans le mal, donc il ne faut pas essayer de le comprendre d'ailleurs, hein, il faut essayer de comprendre le bien. Alors après, on voit bien que toutes les défaillances, ça fait du mal. Mais ce n'est pas intelligible en soi. La seule chose intelligible, c'est le vrai, le bien, la bonté, Dieu. Dieu est intelligible. Alors, que nous ne soyons pas capables d'y accéder, certainement, sauf quand ça nous est donné. La foi est une illumination d'intelligence et qui va rectifier, évidemment, nos actes. Parce que selon qu'on comprend le monde, on agit. Si tout le monde est méchant, on va se conduire en méchant, forcément. Si la bonté est possible, et faut le démontrer, hein, alors on va se conduire peut-être un peu avec de la bonté. Je regarde l'heure parce qu'il est 21h27, donc ça fait une heure que je parle pratiquement. Hein, donc peut-être qu'il faut que je m'arrête. Mais alors le bouquin, si ça vous intéresse, je peux vous dire la table des matières.
Tu as encore 10 minutes.
Ah, j'ai 10 minutes, c'est bien. Vous n'êtes pas trop fatigué. Ça va ? Bon, donc je vous dis un peu ce qu'il y a dans la table des matières. Ça présente le bouquin. Alors, il faut que j'ai ma table des matières entière. Parce qu'avec tous ces papiers... Bon, la nature contient-elle des structures logiques ? C'est une question qu'on peut se poser. Que les mathématiciens ne s'opposent pas. Parce qu'ils écrivent des choses, mais ils ne se demandent pas d'où ça vient. C'est dans leur cerveau, c'est dans la nature, ça vient de Dieu, ils s'en fichent, ils écrivent. C'est des poètes, hein, les mathématiciens. Et il y a des règles, évidemment. La nature contient-elle des structures logiques ? Alors, évidemment, si je pose la question, c'est que la réponse est oui. Mais il faut le démontrer. La première opération d'intelligence, ça c'est quand on fait de la métaphysique ou de la logique, on se pose ce problème-là. La parole est la mise en évidence de la logique quaternaire. Il faut commencer par ça. Vers une définition d'analogie. Pourquoi ? Parce que dès qu'on parle de logique, on va nécessairement parler du langage. Parce qu'il faut un langage pour exprimer la logique. Donc, ce n'est pas indépendant, le langage et la logique. Et dans le langage ordinaire, on emploie une logique très simple, qui est la logique aristotélicienne. Ou n'importe quoi, parce que ça nous arrive de dire n'importe quoi, dans un désordre effroyable, où il n'y a plus rien d'intelligible. C'est le bavardage. Bon, mais bon, c'est comme ça. Alors, la parole est la mise en évidence de la logique quaternaire. Alors ensuite, vers une définition de l'analogie. Je dis qu'il y a deux instruments de la pensée. Car comme dit Pascal, l'homme est fait pour penser. Bon. Toute la morale consiste en une pensée juste. Ça, c'est du Pascal. La pensée ne peut s'exercer qu'avec deux instruments. La logique et l'analogie. Dans la philosophie aristotélicienne, c'est complètement séparé. L'analogie est même un peu rejetée parce que c'est flou. L'analogie, ça consiste à dire, ben c'est comme. Jésus emploie beaucoup, hein. Donc il faut faire attention. À mon avis, il avait raison, hein. C'est comme, mais alors comment c'est alors finalement? Ah ben c'est comme ça. Et puis il va faire beaucoup d'analogies et on ne voit même pas le lien qu'elles ont. Parce qu'entre un grain qui tombe en terre et qui pousse tout seul, c'est une des paraboles, une analogie, et puis le filet qu'on jette dans la mer, quel est le rapport? Eh bien, c'est le même royaume des cieux. Eh bien, tant qu'on n'a pas compris le rapport qu'il y a entre la graine qui pousse toute seule et le filet qu'on jette dans la mer pour amasser n'importe quoi et puis il faut trier ensuite, mais quel rapport? Mais c'est ça comprendre l'écriture. Si on ne peut pas le dire, on n'a rien compris. On dit, ah ben non, ben on va dire des âneries. On va dire, le royaume, ben ça pousse tout seul. Autrement dit, on n'utilise pas l'analogie. On fait comme si c'était de la description. Et avec le filet, ah ben il faut quand même travailler un petit peu, il faut que les pêcheurs pêchent. Bon, alors il faut que les gens dans l'église, ils travaillent un peu quand même, hein, pour ramasser et faire un peu d'idéologie, ramasser le plus d'hommes possible. Bon. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça comprendre les Écritures. Ça, voilà. Alors, ça, c'est tout au début du bouquin. Définir l'analogie. Alors, après, la notion de figure, que les pères ont beaucoup développé, ça. On trouve dans tous les écrits des pères, comme Saint Jean Damascène, Saint Grégoire de Nazianze, etc. Ça. Tous nos pères, ils ont beaucoup réfléchi. Ils utilisaient beaucoup l'analogie, mais sans jamais la définir vraiment. Donc, l'idée d'une logique quaternaire, la structure de la connaissance, est-ce que la connaissance a une structure? Les logiques ternaires et quaternaires, alors là c'est technique, on peut passer quand on lit le bouquin et y revenir après parce que c'est les outils. Vous savez, vous voyez un jardin, il y a des roses, ah qu'elles sont belles les roses. Oui, mais vous voyez pas que dans la remise, il y a des sécateurs, des binettes et tout, et des râteaux. Parce que si vous n'avez pas les instruments, comment vous faites pour cultiver votre jardin. Les Écritures, c'est un grand jardin. D'ailleurs, on y est mis, hein, dans le jardin d'Éden. Ben, il faut avoir les instruments pour travailler, puisqu'on y est passé pour travailler. Les Havdav et les Shomra, on est bon. On y est passé pour y travailler, Havdav, et Shomra, alors on dit y garder. Mais garder de quoi? Non, ça, à Shomer, c'est la sentinelle, pour observer, pour contempler. Le travail et la contemplation, il faut les deux. Et donc, ensuite, on se pose une question. Dans le fond, sur quoi repose toute la logique habituelle et tout le langage? Mais ça repose sur un opérateur, la négation. Ah, la négation, non, il faut l'affirmation. Non, mais vous savez, c'est très simple. Parce que si vous n'avez pas la négation, vous ne pouvez pas parler. C'est simple. Donc le langage est absolument lié à la négation. Et si vous niez deux fois, ben, chez Aristote, en tout cas, ça fait une affirmation. Bon, donc on peut tout dire avec la négation. C'est le cadeau le plus divin que Dieu nous ait fait. Ça nous permet de penser, ça nous permet de parler. Et à l'occasion, ça nous permet de comprendre. Et donc, je me suis posé une fois la question, je ne sais plus quelle année, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une négation? À l'époque, je travaillais avec mon ami mathématicien qui s'appelait Robert Lutz, à qui je rends hommage encore. Et je lui dis, écoute, toi qui es mathématicien, deux métiers, il était même à Grand-Ponte, hein. Il faisait de la topologie différentielle en sept dimensions. Je lui dis, tu m'expliques un peu de quoi il s'agit. Il me dit, non, ça va te faire perdre du temps, parce qu'il faut 4 ou 5 ans pour comprendre ces choses-là. Bon, et que ce n'est pas utile à tout le monde. Bon. Et donc, il ne m'a jamais expliqué ce qu'il faisait. Et moi, je lui dis, j'aimerais que tu m'expliques quand même une chose beaucoup plus simple qu'un enfant de 4 ans peut poser. Maman, qu'est-ce que c'est que la négation? En général, les enfants ne posent pas cette question. Et les adultes seraient bien en peine d'y répondre. Il me dit, c'est évident. Et je lui dis, non, pour moi, ce n'est pas évident. Il me dit, mais puisque tu es patron là, dans ton université, tu pourrais demander à tes doctorants d'aller chercher un petit peu s'il y a une thèse sur la négation. Il y en a forcément. Quoi. Donc, il a fait, parce qu'il était aimable et dévoué, il a demandé à ses doctorants d'aller chercher dans l'immense bibliothèque mathématique que je connais d'ailleurs, est-ce qu'il y a une thèse sur la négation? Qu'est-ce que c'est qu'une négation? Rien. Il n'en revenait pas. Il ne s'était jamais posé la question. Et vous pouvez chercher sur Internet, il n'y a rien. Simple. C'est tellement naturel. C'est tellement une évidence. Il se trouve que ce n'était pas une évidence pour moi. Il faut lutter contre ses propres évidences. Et donc, je lui ai posé, et là, ça a beaucoup marqué tout le développement ensuite mathématique qu'on a fait sur la logique quaternaire. Parce que dès qu'on se pose la question, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une négation? Vous avez une proposition P, non P, bon d'accord. Puis après, vous développez, sans jamais dire ce que c'est. Bon, vous avez des bouquins entiers là-dessus. Et alors, il était bien embarrassé. Et un jour, il revient chez moi, parce qu'il venait travailler chez moi tous les étés pendant 10 ans. Et il me dit, j'ai trouvé. Est-ce que tu vas être content? Je lui dis, dis toujours. La négation, c'est une fonction involutive sans point fixe. Ah, je dis, bravo, c'est génial. C'est ça qu'il fallait dire, c'est simple. Mais dès qu'on a dit ça, on sait qu'il n'y a pas qu'une seule négation. Pourquoi? Parce que si c'est vraiment une fonction involutive sans point fixe, on peut construire d'autres fonctions involutives sans point fixe que la négation. C'est simplissime, c'est ce qu'on emploie tous les jours, évidemment. C'est ce qui est connu depuis les origines du monde. Bon. Mais dès qu'on y réfléchit, on se dit, mais alors, si on passe dans une logique ternaire, là, il y a un os, c'est qu'on ne peut pas construire une négation avec des choses qui marchent par 3. Bon. Alors, on passe au quaternaire. Là, ça marche bien. Mais là, il y a 3 négations différentes. Et notre pauvre cerveau, qui est habitué à toujours dire non, non, non et non, et puis c'est oui ou non, et c'est binaire, a du mal à comprendre qu'on peut dire non de 3 façons différentes. Et je donne dans le bouquin la preuve de la chose, et pourquoi c'est si utile, et pourquoi c'est si beau. C'est que on prend, par exemple, la proposition divine dans la Genèse à la dame, à l'homme, mais c'est la dame qui répond. De l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise, donc il y a une connaissance comme ça, tu ne mangeras pas. Bon, évidemment, elle va et on mange. Donc c'est la catastrophe. Et on ne fait pas plus attention. Sauf qu'il y avait 4 choses. Il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre beau à voir et bon à manger, c'est nos arbres quotidiens, ça. L'arbre qui est dans l'homme, vous allez me dire, mais ce n'est pas dit, mais c'est dit dans Saint Marc. Parce que Jésus fait un miracle spécialement pour nous rappeler que si on voit vraiment ce que c'est que l'homme, on voit l'homme qui marche comme un arbre. Ah bon, ça fait bizarre. Oui, mais ça veut dire qu'il faut considérer l'homme comme un arbre, c'est une analogie, donc il faut comprendre l'analogie. Et puis, il y a l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise, du bien et du mal si on veut, mais et qu'il ne faut pas manger. Donc, il y a 4 arbres. Et donc, quand on regarde et qu'on a la logique dans la tête, on se dit, mais quelles sont les valeurs, non pas de vérité, puisqu'il s'agit de vie ou de mort. Il y en a un qui donne la mort, puis il y en a un qui donne la vie, l'arbre de vie. Donc, c'est des valeurs de vie. Il n'y a pas que le vrai et le faux dans la vie, justement. Et donc, l'arbre de vie, on va formaliser ça. Il y a quatre valeurs de vie. Alors, il y en a une qui n'a pas, c'est, alors on va le donner zéro, et l'autre, la quatrième, on va lui donner valeur 3. Il y aura 0, 1, 2, 3. Alors, qui sont 1 et 2? Il faut réfléchir. Quelles sont les valeurs de vie? Alors, évidemment, l'arbre qu'on mange et qui est bon à manger et beau à voir d'ailleurs, eh ben, il a une valeur de vie supérieure à l'imagination ou la capacité de penser de l'homme. La capacité de penser de l'homme, il peut penser l'arbre, justement. Hein? Mais ça ne le nourrit pas. Donc, ça n'a pas une valeur de vie aussi grande que les fruits de la nature. Mais c'est important, parce que s'il n'avait pas la forme de l'arbre en lui, il ne reconnaîtrait pas les arbres dans la nature. Bon, vous voyez, donc là, il y a de la logique en plein. Et alors, on se demande, mais Ève, là, qui ne s'appelait pas encore Ève quand elle fait la faute, d'ailleurs, hein, comment elle a nié? Il y a quatre façons de détruire ce système. Il n'y en a pas qu'une. Alors, elle a choisi la bonne, évidemment. La bonne façon de se tromper, qui était la suggestion du serpent. Très intelligent. Mais, en fait, il y avait trois façons de se tromper. Donc, il y a trois façons d'être dans l'erreur. Il y a un endroit, c'est révélé, cette affaire. C'est dans, évidemment dans les trois tentations de Jésus au désert. Satan essaye de faire nier à Jésus les valeurs de vérité de la proposition divine. Eh bien, il n'y a que trois façons. Et quand il a épuisé les trois façons, le texte nous le dit, il a épuisé toutes les façons de tromper. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas plus. Parce que c'est de la logique. Et ça colle parfaitement, je vais vous dire. Alors, tout ça, je raconte dans le bouquin, puis je le démontre. Voilà. Alors, donc, il faut rentrer dans ce que c'est une figure. Négation et autre opérateur quaternaire, parce que dans la logique binaire aristotélicienne, il y a un seul opérateur qui compte, c'est la négation. Donc, un opérateur. Après, on peut réunir, intersecter, enfin, etc. Puis on fait des choses très compliquées. Mais avec trois négations, ben à ce moment-là, il n'y a pas un opérateur, il y en a 24. Alors, le système devient un peu plus difficile à bien digérer. Et au début, on se demandait bien à quoi peuvent servir tous ces opérateurs. On est débordé par ce qu'on a trouvé. Et finalement, on a trouvé de quoi il s'agissait. Et donc, un pas vers une logique quaternaire. Après, le concept de représentation. Alors ça, je ne développe pas. Après, la dynamique de l'analogie. Après, la parole créatrice. Changement de vocabulaire selon la notion utilisée. Passage d'une notation à l'autre, on peut écrire les choses de façon différente. Ordre des catégories dans une structure quaternaire. L'ordre des termes de la différenciation dans l'analogie. La quaternité de la vie humaine. Alors, c'est la grande nouveauté de tout le bouquin par rapport à mes précédents bouquins, c'est de dire que la vie humaine est une réalité qui a une forme de totalité, alors il faut définir ce que c'est, et qui est différenciée quaternairement. Et donc, ça va être une quaternité de quaternité. Donc, je ne rentre pas dans le détail, parce que là, c'est impossible. Hein? Donc, la quaternité de la vie humaine, les valeurs de vérité quaternaire, de nouveau à propos de l'analogie, parce qu'on approfondit doucement, décrire les permis et les interdits de la vie humaine, usage des valeurs de vérité, exemple d'application des structures quaternaires jumelles. Une structure relationnelle quaternaire peut-elle être une quaternité de quaternité? Alors, c'est un peu technique. Et après, trois tentations, trois négations. Alors, je donne les exemples. Alors là, ça fait comprendre l'écriture sainte. Représentation des opérateurs de négation et de négation. Notion de haine ensemble. Bon, ça, c'est un peu technique, mais on peut sauter. Tout ce qu'on peut sauter, j'ai mis en encadré. Pour pouvoir que le texte soit lisible. Et après, j'ai perdu ma page. Si. Alors, les choses plus importantes pour le grand public, évidemment, c'est logique de la guérison de Bethsaïda. Justement, quand l'aveugle voit les hommes comme des arbres qui marchent. Eh bien, il y a une structure logique derrière qui est magnifique. Si on la comprend, on comprend encore autre chose. Application approfondie aux états du corps du Christ. Vous savez que dans la Révélation, il y a quatre états du corps du Christ. Consul de la Vierge Marie, ressuscité des morts, assis à la droite du Père et présent dans l'Eucharistie. Eh bien, ça relève aussi de la logique. Du moins, il y a un langage de logique qui peut expliquer ces choses et nous embarquer dans une adhésion extrêmement profonde au mystère qu'on ne comprend pas, mais dont on comprend la connexion. Ce que j'ai lu tout à l'heure de Vatican I qui nous dit que la droite raison peut démontrer les fondements de la foi. Eh bien, c'est vrai. Donc, je dis bien à nos chers pères de Vatican I, 1870, mais ce n'est pas dépassé. Hein. Application au corps du Christ, un domaine d'application des structures quaternaires. Alors, qui sont les interlocuteurs, par exemple, dans la structure fondamentale de la vie humaine, qu'est le mariage? Pourquoi ce rituel est une nécessité? Et comment? Alors, il est lié au mystère de Cana, lié au dernier repas de la scène. Alors, le sang de l'Alliance, et à la fin, je dis une nouvelle apologie. C'est que si on a le bonheur de pouvoir entrer dans ces choses, peut-être pas tout le monde, mais au moins quelques-uns, ça donne une joie intérieure inouïe et difficile à partager parce qu'il faut travailler pour y atteindre, c'est tout. C'est comme les gens qui font des escalades, ils sont tout à fait exaltés d'avoir fait le sommet de je ne sais pas où. La plupart des gens ne peuvent pas en faire autant. Hein. Parce qu'il faut apprendre l'escalade, il faut avoir la force, il faut ceci, cela. Mais ils nous rapportent des images qui sont... Quand on voit les images de l'Annapurna, on est content. Mais nous, on ne pourrait pas y aller. Et bien là, il y a certainement beaucoup de choses dans lesquelles beaucoup de gens ne peuvent pas entrer, mais si quelques-uns entrent, ils vont rapporter quelque chose de l'air des cimes. Et bien, ça fait respirer dans notre monde qui, paraît-il, devient irrespirable. Et ça, c'est le début que je trouve... C'est le début... De la préface du Père Saès, je vous le lis parce que c'est trop beau, c'est « Il n'y a pas de logique dans le mal qui est dépourvu de tout système respiratoire. » J'aime bien ça. Bon. « C'est pour cela que dans le monde divisé par les guerres et envahi par les idéologies, l'atmosphère devient irrespirable. Il nous faut donc trouver une citadelle d'espérance au milieu du désert pour pouvoir respirer l'air pur de la vérité qui remplit les hauteurs. La logique dont traite ce livre est une logique du bien. » Bon, etc. Après, il parle un peu de... Voilà. Et à la fin, il dit de belles choses aussi. Il y en a plusieurs pages. Cette nouvelle apologie du christianisme nous invite à ne pas avoir peur de redécouvrir le christianisme comme vérité et de restituer son système respiratoire, sa logique de vie, en chaque créature humaine, singulièrement de personne à personne, de cœur à cœur, comme dirait Pierre Perrier. Nous donnerons ainsi raison à la foi de nos pères, comme l'a souhaité le grand philosophe russe Vladimir Soloviev, auteur d'une philosophie de la connaissance intégrale, bien actuelle à plusieurs égards. Je salue Vladimir Soloviev, voilà, parce qu'il connaît bien la théologie orthodoxe. L'homme est le fruit du travail de Dieu. Il faut l'aider en complétant avec notre parole orale ce qui manque à l'humanité de l'homme, ce que ne peut pas lui fournir l'automatisme animal, donc la biologie, ni la lutte binaire de l'homme et de la femme, parce que c'est toutes les luttes sur Terre, c'est un peu ça. La parole rituellement reçue est la condition de la survie spirituelle de l'humanité. Parce que l'humanité dans l'homme est la valeur la plus menacée est précisément à cause de l'idéologie, qui est un refuge pour ceux qui fuient la vie, pour échapper au désir et à la décision. À notre époque, l'idéologie est manifestement destructrice. On voit partout à l'œuvre une destruction apocalyptique. Mais, il fait une citation, « ceux qui construisent vont plus vite que ceux qui détruisent ». C'est Isaïe 49, 7, dans la version de la Vulgate. Il faut savoir découvrir en ces temps troublés les signes de la providence divine et son appel à la liberté, à l'intelligence et à la volonté de l'homme. Parce que la vérité suit son cours imparable. Le rationalisme a déjà été vaincu, tout comme le fidéisme. L'intelligence va être rendue à la foi et la foi à l'intelligence, et cela accomplira le monde. Être chrétien est tout simplement comprendre les Écritures. C'est l'heure de la compréhension intégrale de la révélation. Si une seule créature s'ouvre à la vérité, la lumière a déjà vaincu les ténèbres, car la vie éternelle aura été établie dans un cœur humain. De ce cœur, au nom de tous, jaillira alors un fleuve de lumière, comme dit Jésus, de leur cœur jaillira un fleuve de lumière, qui est le Verbe de Dieu lui-même dans lequel nous sommes et nous vivons. J'arrête là. Donc ça, c'est la préface de Saez. Bravo, hein? Voilà.
Merci beaucoup, Jean-François. Je vais arrêter l'enregistrement. Hein.